Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne, il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans pitié, il y a les femmes seules et les prisonniers, il y a les infirmières et les gars du chantier, il y a les oufs, les ouaves, les toqués, toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission de janvier de la Ligue des droits de l'homme, émission mensuelle sur CFM Radio. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Je vous rappelle que vous pouvez écouter également cette émission sur Radio Larzac. Comme chaque année, des lycéens, plus précisément des lycéennes du lycée Raymond Savignac de Villefranche, s'investissent dans la préparation du concours des plaidoiries pour les droits de l'homme initié par le mémorial de Caen. La Ligue des droits de l'homme s'associe au lycée Raymond Savignac pour permettre à ses élèves de présenter en public le travail qu'elles ont réalisé au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire. Le 12 janvier, cette manifestation avait lieu au théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue. Et nous avons choisi de vous faire réentendre pour ceux qui étaient présents ou écouter pour ceux qui n'avaient pu se déplacer les plaidoiries de ces élèves. Et je vous laisse en compagnie de Pierrette Mataran, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche-de-Rouergue de Casville, vous présenter cette soirée au théâtre de Villefranche-de-Rouergue.
Premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 nous dit « Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Il est encore à ce jour nécessaire de rappeler cet article, de le faire nôtre, de le faire vivre, de le faire respecter aujourd'hui et demain. Et donc, continuer à mener une réflexion commune sur le sens de cet article de nos jours reste indispensable. La Ligue des droits de l'homme et le lycée Raymond Savignac s'y emploient, chacun de leur côté, dans diverses actions d'information culturelle ou de formation pédagogique, et s'associent aussi, comme depuis 8 ans, dans les plaidoiries pour les droits de l'homme. Ce soir, nous suivrons la 9e séance de ces plaidoiries, dont les sujets sont proposés par les élèves eux-mêmes, encadrés par leurs enseignants. Les discriminations de tous ordres, les violences, l'homophobie, la prostitution ne sont que quelques-uns des sujets abordés ce soir. Pour chacune des intervenantes, ce travail d'expression orale difficile a nécessité réflexion et recherche. Espérons qu'il les aidera plus tard à poursuivre leur engagement citoyen en faveur des droits de l'homme. Nous remercions particulièrement les enseignantes, Madame Desqueroux, Madame Escudé, Madame Charbonnel pour leur motivation et leur investissement dans cette activité pédagogique originale, exigeante, et qui marquera, j'en suis certaine, chacune des élèves participantes. Écoutons-les, exposer, rappeler, s'indigner, défendre avec conviction, avec franchise, avec émotion.
Vous allez écouter Audrey, Marie, Emma, Ophélia, Emma, plaider contre les discriminations, contre la faim des enfants dans le monde, contre la violence faite aux femmes et contre toutes les formes de discrimination. Leurs plaidoiries sont présentées successivement par deux de leurs camarades.
Où avez-vous prévu de partir en vacances cet été ? Voici les premiers mots de la plaidoirie qui va vous être présentée. Au-delà de cette phrase, Audrey dénonce la discrimination des personnes atteintes de maladies longues dans sa plaidoirie « Quand le regard tue ».
Mesdames et messieurs, où avez-vous prévu de partir en vacances cet été ? À Cuba ? À Chypre ? En République dominicaine ? En Égypte ? Ou encore en Nouvelle-Zélande ? Sachez que si vous êtes séropositif, vous serez confronté à des restrictions concernant la visite de ces pays. Le sida est une maladie classée comme une ALD, une affection de longue durée, maladies qui sont au nombre de 30. En 2014, 9,9 millions de personnes étaient atteintes d'une ALD en France, soit un peu moins d'une personne sur 6. Ces dernières vont des graves problèmes de cœur à l'épilepsie en passant par la sclérose en plaques. Les employés souffrant d'une ALD sont en moyenne payés 6% de moins que les autres à poste égaux. Une enquête révèle aussi qu'une personne sur 5 atteinte du cancer affirme avoir été victime de discrimination sur son lieu de travail. Car oui, mesdames et messieurs, c'est bien le mot. Quand on subit une discrimination, on est victime. Madame X témoigne. J'ai eu un cancer du sein il y a 4 ans de cela. Je suis restée 1 an en arrêt. J'étais secrétaire dans une municipalité depuis 7 ans. Après la maladie, je n'ai pas retrouvé mon poste. On m'a rendu un carton contenant mes affaires personnelles et j'ai été mise au placard. Je suis tombée dans un service où le directeur n'osait même pas me regarder en face et m'a carrément dit « Lorsqu'on est pourri de l'intérieur, c'est pas la peine de revenir. » Pourtant, comme le précise la loi du 27 mai 2008, toute décision de l'employeur doit être prise sur des critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel fondées sur des éléments extérieurs au travail. À défaut, des sanctions civiles et pénales sont encourues. Aucune discrimination ayant pour origine l'état de santé ou l'handicap n'est donc acceptée. Madame X témoigne encore. Et je passe sur les nombreuses brimades rabaissantes devant mes collègues. Car oui, les insultes, les commentaires malveillants, les injures, les offenses et le déshonneur font aussi partie du quotidien des malades. Tant et si bien, mesdames et messieurs, que Madame X témoigne sous pseudonyme. Mais la sérophobie ne s'arrête pas ici. En plus d'être victime de restrictions de la circulation, qui est un droit fondamental, d'être victime d'injures, les séropositifs continuent d'être victimes de discrimination, même dans la mort. En effet, certains malades ne peuvent pas recevoir les soins post-mortem, ce qui empêche toute présentation du corps aux proches avant la mise en terre. Car oui, même quand ils disparaissent, les séropositifs continuent à être discriminés. La maladie n'est-elle pas déjà assez dure à vivre ? Doit-elle continuer à être un obstacle dans la mort ? Quand on discrimine un malade du fait de sa maladie, on va aussi à l'encontre de certains textes, la loi par exemple, mais aussi à celle d'une certaine déclaration. La manière dont on traite les personnes atteintes de longues maladies, dont les séropositifs ou encore les cancéreux, fait entorse à plusieurs articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'article 7, qui stipule « Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » Également à l'article 12, « Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. » Je fais ici référence aux remarques malveillantes dont peuvent être victimes les malades. L'article 13 dit « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. » L'article 23 n'est, lui aussi, pas respecté. « Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal, pour un travail égal. » Pourtant, 26 des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme commencent par « Toute personne, tout individu, chacun ou nul. » Chacun peut se prévaloir de tous ses droits, a dit Navi Pillay, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. En 1987, Jonathan Mann décrit les trois phases de l'épidémie du sida. La première, l'épidémie du VIH. La deuxième, l'épidémie du sida. Et la troisième, l'épidémie de la stigmatisation et de la discrimination. Ainsi, les discriminants sont des agents de la maladie, tout autant que le virus lui-même. Et là, une question peut se poser. Qui des personnes discriminées ou des personnes discriminantes sont les plus malades ? J'illustrerai mon propos avec cette citation d'Henri Amouroux, dont la métaphore, je trouve, colle ironiquement bien avec notre sujet. Comme il existe un cancer des corps, il existe un cancer des âmes, et c'est sans doute le mal le plus grave, car le moins aisément guérissable. À l'origine, la jalousie, la sottise, la volonté de domination, mais plus encore, l'incompréhension et le refus des différences. Alors, pour lutter contre la maladie, évitons la propagation de ce virus destructeur. Je demande à chacun d'entre vous, comme à moi-même, de traiter chaque individu malade que nous rencontrerons avec le respect qu'on doit à quiconque. Je demande à chacun d'entre vous, comme à moi-même, de s'opposer ouvertement à l'irrespect des malades dus à leur maladie. Car lorsqu'on est malade, on a besoin de soutien, et celui-ci n'est pas toujours apporté à tous. Certaines associations soutiennent et luttent pour le respect des malades, comme Solidarité Sida, SIDAction ou encore Stop Sérophobie. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Alors si vous, inconnus ou peut-être connus, vous êtes témoin d'insultes ou de n'importe quelle autre stigmatisation, agissez et apportez votre soutien pour que l'article le plus important de la Déclaration universelle des droits de l'homme soit respecté. L'article 1, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Alors je demande à chacun d'entre vous, comme à moi-même, d'agir en tant que tel et comme tel. Je demande à chacun d'entre vous de ne pas définir une personne par sa maladie, de lutter contre les discriminations à votre échelle, en respectant les malades, en les défendant quand c'est nécessaire. Nous pouvons tous être agents de la lutte contre la discrimination des malades. Chacun d'entre nous peut agir. On ne choisit pas d'être malade. Certaines maladies restent incurables, mais nous tous pouvons choisir d'arrêter la stigmatisation, la discrimination de ces personnes, pour qu'au moins le regard ne tue plus.
C'est en lisant un article expliquant le cas de Sahang, un enfant anglais de 14 ans, se prostituant, qu'elle a eu envie de faire sa plaidoirie, qui dénonce la prostitution des enfants. En Angleterre, 1400 jeunes ont été abusés sexuellement, et leurs agresseurs courent toujours. Marie pensait que uniquement dans les pays pauvres ou en difficulté, les enfants se prostituaient. La réalité en est tout autre, et elle l'a bien mesurée grâce à sa plaidoirie « Enfants à vendre ».
« 2010, Rosaram. 5 hommes sont arrêtés et condamnés pour exploitation sexuelle d'enfants. Croyez-vous qu'ils n'étaient que 5 agresseurs ? Non, ils étaient bien plus nombreux, mais seulement 5 ont été arrêtés. De 1997 à 2013, en Angleterre, 1400 jeunes ont été victimes d'un important trafic sexuel. Les trafiquants les attiraient en leur promettant de superbes cadeaux. Les enfants n'avaient alors aucune idée de la violence à laquelle ils allaient être confrontés. Ce trafic était pourtant connu de la police et des services sociaux. Mais aucune des plaintes n'a été prise au sérieux et l'affaire a longtemps été négligée et étouffée. Voici comment les enfants étaient traités, d'après Alexis Jay, ancienne inspectrice des affaires sociales en Angleterre. Des enfants ont été aspergés d'essence, puis menacés d'être enflammés, ont été menacés avec des armes, ou encore ont été forcés d'être témoins de viols très violents. Et si un enfant essayait de s'enfuir, il suffisait de lui casser les jambes. Leur famille pouvait également être harcelée, et les enfants étaient parfois de nouveau vendus, comme de simples objets. Mais que répondait la police aux appels à l'aide des enfants ? Tu es une pute. Tu ne mérites pas qu'on t'aide. Croyez-vous, mesdames et messieurs, qu'un être humain, qui plus est un enfant, ne mérite pas d'aide ? 2015, en Thaïlande, Sang commence à se prostituer à l'âge de 14 ans, après avoir fugué. Ne sachant pas où aller, il se livre à la prostitution pour survivre dans les rues sombres du quartier de Nana. Le plus souvent, il dort dehors. Bien sûr, en plus de l'exploitation qu'il subit, Sang est exposé à de graves maladies sexuellement transmissibles et à la violence des adultes. Lorsqu'il n'est pas battu par une mafia du coin, un de ses clients tente de le noyer. La police ne lui est pas non plus d'une grande aide. Alors qu'il se faisait payer, Sang est arrêté et amené au poste de police et y est gardé toute une nuit. Mais qu'est-il arrivé à l'homme avec qui Sang était lors de son arrestation ? Rien. Cet homme n'a même pas mis un pied au commissariat. Selon le 9e principe de la Déclaration des droits de l'enfant, un enfant a le droit à une protection contre toute forme de cruauté, de négligence et d'exploitation. Pour vous, c'est sûrement évident. Pas besoin de connaître ce genre de loi pour savoir qu'un enfant a le droit au respect. Mais certaines personnes semblent avoir du mal à comprendre qu'on ne peut pas détruire la vie d'un autre être humain, surtout celle d'un enfant. Mais laissez-moi d'abord vous définir l'expression « exploitation sexuelle à des fins commerciales ». Elle désigne la soumission d'enfants à des exploitants, des groupes de mafia, qui les obligent à entretenir des relations sexuelles en échange d'une rémunération. Bien sûr, cet argent est destiné à l'exploitant. Dans le monde, plus de 2 millions d'enfants sont exploités sexuellement à des fins commerciales. Oui, vous m'avez bien entendu, 2 millions. Je vais surtout vous parler de la prostitution enfantine. Mais il existe évidemment d'autres formes d'exploitation, comme la pédopornographie et le tourisme sexuel. Savez-vous qui sont les victimes ? Les victimes sont des enfants, des personnes vulnérables à cause de leur pauvreté, de leur situation familiale ou de la situation politique de leur pays, par exemple s'il est en guerre. Il y a aussi les traditions et les coutumes de certains pays, comme en Afrique du Sud ou en Asie, où la violence envers les enfants est tolérée. En effet, mesdames et messieurs, au risque de vous choquer, leur corps imberbe et leur virginité sont très appréciés par certains adultes. Par conséquent, on observe un abaissement de l'âge des enfants exploités chaque année. Il y a également des lois inadéquates à la protection de l'enfant, où les crimes ne sont pas jugés, en plus de la corruption de certains fonctionnaires. Et les bourreaux, qui sont-ils à votre avis ? Eh bien, c'est monsieur tout le monde. Il n'est pas rare de voir un siège bébé à l'arrière de leur voiture. Ils manquent de maturité, cherchent des enfants parce que ceux-ci sont synonymes de beauté et de bonne santé et les réduisent en esclavage. Cette exploitation sexuelle part d'un seul et même point, la traite, le troisième trafic le plus lucratif au monde. La traite est très liée à la prostitution des enfants. En effet, les enfants victimes de la traite sont bien souvent destinés à finir sur le trottoir. Les victimes venant de pays en développement sont recrutées de force ou de leur plein gré, croyant ne pas avoir le choix. Puis, elles sont transportées vers un pays riche où elles entrent illégalement pour être finalement prostituées. Un enfant ne choisit donc pas de se prostituer, mais y est contraint par des circonstances, un besoin de nourriture, d'un abri, d'une protection ou d'adultes qui abusent de leur autorité. Aussi, la plupart ont un passé familial calamiteux. Selon l'association Aux Captifs la Libération, Porte Dauphine, 50% de ces jeunes ont été abusés par des parents incestueux ou des éducateurs pédophiles avant de se retrouver sur le trottoir. La prostitution peut être aussi organisée par la famille. Près de Boulogne-sur-Mer, 6 personnes ont été mises en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur des enfants. Des parents leur permettaient d'abuser, de filmer de leurs enfants âgés de 4 à 12 ans contre de l'argent. Oui, l'un d'eux avait 4 ans. Horrible, n'est-ce pas? Voici des chiffres tout aussi horrifiants. 1,2 million d'enfants se prostituent en Inde, 38 000 en Afrique du Sud, 1 600 au Mexique, sans oublier la Chine, la Thaïlande, le Brésil, la Roumanie, la Russie, pour n'en citer que quelques-uns. Mais la prostitution enfantine est bien présente dans toutes les grandes villes, et pas seulement dans les pays pauvres. Qu'en est-il de la France, par exemple? En France, on estime qu'entre 6 000 et 10 000 enfants se prostituent, d'après l'ONG ECPAT France, qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Mais ce ne sont pas que des enfants étrangers venant d'Europe de l'Est ou d'Afrique. Il y a aussi une moitié française. Quoi qu'il en soit, ces enfants dépendent tous de la traite ou se prostituent pour survivre. Et cela, malgré l'article 34 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule « Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. » Le sujet reste cependant très tabou, car il touche les enfants et qu'il y a, à ce jour, peu de solutions. Profiter et abuser d'enfants est pour moi inhumain. Un enfant est un être vivant qui a le droit, comme chacun d'entre nous, de mener une vie paisible sans avoir peur du lendemain. Les enfants ne sont pas à vendre.
Vous êtes sur CFM Radio. C'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Après une pause musicale, mélangez-vous d'armes pos, place à la suite des plaidoiries.
So that them were mala, or then the bombs were mala. I am bulletin your my bulletin your my bulletin your my home. I am bulletin your my bulletin your my bulletin your my Monte Cayon of Mala, Monte Boyer of Mala, and your bank elema. I am bulletin your home. So that they were mala, within the bombs of Mala.
Défendant l'identité, prenons ici l'unité. Tu choisis ni ta langue ni ta nationalité. Restons maîtres de nos valeurs, de nos vérités. Par nos chants métissés, à vous on vient s'adresser. On n'attend pas d'être au mic pour l'unité pratiquée. Tous les jours de l'année, nous bougeons pour nos idées. Mélangez-vous, unissez, métissez-vous. Tu as autant à prendre de nous que nous de vous.
Coloring, colorant. Así son los hombres, son las mujeres. Coloring, colorant. Beba de colores. Coloring. Así son los hombres, así las mujeres. El fuego no se mezcla con aire o se muere. El viento siembra semillas en los corazones. El mar se hace puma y el río corre. Y no hay quien lo pare. Coloring. Ven pa' acá, mamita, tumbate a mi lado. A mí no me importa lo que dice el morado. Ellos son brazón, no dan dolor. Prefiero esta cosita que tiene tu interior. Mezclemos la ruta, borremos la pista.
nuestra sangre contará toda su historia. Un camino doble, una doble herencia, una doble memoria. Hey, hey.
Défendant les dents, tu déprenons ici l'unité. Tu choisis ni ta langue ni ta nationalité. Restons maîtres de nos valeurs, de nos vérités. Par nos chants métissés, à vous on vient s'adresser. On n'attend pas d'être au mic pour l'unité pratiquée. Tous les jours de l'année, nous bougeons pour nos idées. Mélangez-vous, unissez, métissez-vous. Dieu a autant à prendre de nous que nous de vous.
يا شيخ انا وجبا انا يا باش عطوف نوف الناس كي مسبع الليل ومن عن نهار كي خد موت تو مجموعين نسيت عموك سي مجموعين لكازي تو واحد كي بغا مع لو غالي بغا يدير وكل اللي بغاو السو اللي بغيت تجي فينا ما كاينش واحد فينا اللي يقول لك معلم كل واحد فينا كيعلم لاخو شنو كيعرف وعلم معاد لاخو شنو ما كيعرفش ولا بغيت تجي انت تزيد تخدم على راسك انا سيد خو تزيد تبيع ومتبعد غير من الناس اللي كيغلو منك الناس اللي كيعطو فيك وما كيعطوش معاك
معاد
وين بابا انت سمعتيني ولا فهمتيني عرفتك كان خدمو زدو انا عايت لك بغيتي في تيكاليف ولا علي المكر على البي مو على بي مطبع التبودا في تيكاليف كتابعو خمسة في بلاستوم
Défendant l'identité, prenons ici l'unité. Tu choisis ni ta langue ni ta nationalité. Restons maîtres de nos valeurs, de nos vérités. Par nos chants métissés, à vous on vient s'adresser. On n'attend pas d'être au mic pour l'unité pratiquée. Tous les jours de l'année, nous bougeons pour nos idées. Mélangez-vous, unissez, métissez-vous. Dieu a autant à prendre de nous que nous de vous.
Dans son livre Le Petit Prince, Saint-Exupéry a dit: on ne voit bien qu'avec le cœur. Aujourd'hui, Emma va nous parler des discriminations liées au physique, aux origines, à l'âge, et ainsi nous démontrer que l'essentiel est invisible pour les yeux.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Lui est homosexuel. Elle, elle est trop grosse. Lui, il est trop petit, trop noir, trop grand, trop mince. Mesdames et messieurs, qui n'a pas un jour fait face à la discrimination, été blessé sur un sujet, une apparence? Moi, la première. L'action de différencier ou de séparer une personne et, ou, de lui enlever des droits? Voilà la définition de la discrimination. Il en existe plusieurs types. Les discriminations raciales, basées sur les origines ou la couleur de la peau. Les discriminations physiques. Les discriminations sexuelles, qui différencient les personnes selon leurs orientations sexuelles. Les discriminations physiques, basées sur les apparences. La liste est longue, malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous faire une proposition. Si nous prenions exemple sur le renard du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui invite celui-ci à s'asseoir dans l'herbe pour apprendre à le connaître, de jour en jour, afin de lever les barrières de l'inconnu. Lever les barrières de l'inconnu. Si tout le monde faisait la même chose, on pourrait apprendre à se connaître, ne pas juger la personne sans se dire que celle-ci est différente. Mais surtout, mesdames et messieurs, si nous levions les barrières de l'inconnu, alors nous détruirons les murs des discriminations. Pour exemple, en France, beaucoup de personnes sont victimes de discriminations professionnelles. Certes, pour des raisons différentes. 32% pour l'âge, 63% pour le sexe, 71% pour l'apparence et 36% pour les origines. Autant dire que cela fait beaucoup. Et pourtant, n'est-ce pas la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 23, qui nous dit que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, et à la protection contre le chômage? Tout le monde a le droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Pour appuyer mes propos, laissez-moi vous raconter l'étude faite en 2015 par Marianne Valfort, maître de conférence à l'Université de la Sorbonne. C'est l'histoire de six jeunes qui ont vécu dans le même quartier à Beyrouth. Ils s'appellent Esther, Michel, Nathalie, Samira, Dove et Mohamed. Deux sont juifs, deux sont catholiques, deux sont musulmans. Et tous, décident de venir en France pour continuer leurs études. Ils ont tous la nationalité française. Et à 25 ans, le même diplôme en poche, ils partent à la recherche d'un emploi. Ils envoient tous leur CV pour des entretiens d'embauche. Pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Alors que certains obtiennent un entretien au bout de 5 CV envoyés. D'autres attendent l'envoi du 25e CV. Et oui, mesdames et messieurs, 5 fois plus de demandes. Ai-je besoin de vous donner des prénoms ? Allez, voici la conclusion. Nathalie a envoyé 4 CV. Michel et Esther, 5. Samira, 6. Dove, 7. Et Mohamed, 20. Et oui, en France, Mohamed a 4 fois moins de chances d'être recruté que Michel. Et pourtant, ils sont 6 à avoir eu la nationalité française en 2008. Ils ont tous une expérience de travail de 4 ans. Ils parlent tous les 6 en arabe. Ils ont tous obtenu le même diplôme. Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques, 44% des Français d'origine extra-européenne déclarent avoir rencontré une situation discriminatoire au moins une fois dans leur vie. Pourtant, un employeur coupable de discrimination risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Effarant cette étude, vous ne trouvez pas ? Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les pratiques discriminatoires ne touchent pas que le monde professionnel. En effet, si trouver un logement en location relève de la difficulté, cela devient mission quasi impossible. Si on a un accent étranger, mais également si on est âgé, mère célibataire ou handicapé. Pour mesurer le phénomène, des enquêteurs de l'association 60 millions de consommateurs ont répondu à des offres de location. Des profils différents pour mesurer la discrimination au logement. Tous avec une situation stable. Des revenus de 3 le montant, avec un garant. Il y a Anne, 28 ans. Yvette, 71 ans, et veuve. Babacar, 31 ans, avec un accent étranger. François, 25 ans, et sous cutarelle. Christelle, 38 ans, et mère célibataire. Malgré des situations financières et professionnelles identiques, les candidats à location n'ont pas été traités de la même manière. En effet, si Anne a eu des rendez-vous à chaque fois, la personne âgée a su 24% de refus de visite. Babacar, le candidat à l'accent étranger, 33%. La personne sous cutarelle, 29%. Et la mère célibataire, 30%. L'étude précise qu'aucun propos discriminatoire n'a été tenu. Non, la discrimination est plus vicieuse. Les réponses pour refuser les candidats. On vous rappelle plus tard. Le programme des visites est complet. L'appartement est déjà loué. Voilà ce qu'ils répondent pour écarter les candidats qui n'auraient pas le profil type, mesdames et messieurs. Et la discrimination ne s'arrête pas là. Non, dans certains cas, le nombre de pièces demandées pour constituer le dossier varie selon les candidats. Par exemple, on a demandé 40 fois à Babacar d'apporter ses bulletins de salaire pour justifier de sa situation contre 9 fois pour Anne. Nous voici bien éloignés de l'égal accès au logement. Pour rappel, la discrimination au logement est définie dans la loi de 1989 qui prévoit une sanction théorique maximale de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Mesdames et messieurs, à travers ces deux études, deux tristes réalités. Nelson Mandela a dit « Personne n'est né avec la haine pour l'autre du fait de sa couleur de sa peau, ou de son origine, ou de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer, car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que de son opposé. » Alors, mesdames et messieurs, apprenons-nous à nous connaître plutôt qu'à se haïr. Rappelons-nous l'histoire du renard du Petit Prince de Saint-Exupéry. Levons les barrières de l'inconnu. Détruisons les murs des discriminations. Je ne cherche pas à vous persuader. Non. Je cherche à vous faire réfléchir. Pour tous qui attendent un geste, une parole, qui leur permettront de vivre dans un quotidien sans histoire, ou tout simplement d'être heureux. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de mon discours, retenez ceci. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Ce thème l'a profondément touchée. Il était donc normal pour elle d'en parler. Ces nombres vous étonneront. De nombreuses femmes meurent sous les coups de leur conjoint. Nous ne le savons pas assez. En prenant l'exemple d'un cas connu de tous, ayant fait la une des journaux il y a quelques jours, à travers l'histoire de Jacqueline Sauvage, Ophélia, ce soir, va nous questionner. Pourquoi n'êtes-vous pas partie ?
Mesdames, messieurs, bonsoir. 9. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose ? 9, c'est le nombre de personnes violées chaque heure en France, soit environ 206 viols par jour. La majorité des personnes attaquées sont les femmes. Un viol est commis toutes les 40 minutes. La violence faite aux femmes est définie par l'ONU en 1997 comme tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Beaucoup de femmes nient cet acte de violence par dignité, car il est toujours humiliant de se dire que l'on a été abusé sexuellement. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, environ 13 000 viols ont été déclarés en France en 2014. Malheureusement, le nombre réel est estimé à plus de 75 000 personnes victimes de viols chaque année. Plus de 75 000 personnes victimes de viols chaque année. Le cas dont je vais vous parler ce soir est un cas de violence faite aux femmes, mais aggravé, car il se passe dans le milieu familial. Une violence conjugale, c'est un processus au cours duquel un partenaire exerce à l'encontre de l'autre des comportements agressifs, violents et destructeurs. Une relation de domination s'installe au sein du couple. Que vous soyez marié, pacsé, en union libre ou bien séparé de votre conjoint, les violences conjugales sont punies par la loi et l'auteur des violences est passible de sanctions pénales pouvant conduire à son incarcération. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, le 10 septembre 2012, ce matin-là, dans un petit village du Loiret, en Seine-et-Marne, Jacqueline Sauvage et son mari, Norbert Marot, se disputent. Le matin même, il aurait exercé sur elle des violences physiques. Jacqueline Sauvage charge un fusil de chasse et tire dans le dos de son mari, le tuant de 3 coups de feu. Pour expliquer son geste, Jacqueline Sauvage affirme avoir eu peur pour sa vie et celle de ses enfants. Le meurtre s'inscrit, selon elle et son avocate, dans un contexte de 47 années de violence conjugale. 47 années de violence conjugale. La veille du meurtre, Pascal, leur fils, s'est suicidé par pendaison. Pascal était également victime des violences de son père. Les trois filles du couple, quant à elles, confirment les violences de leur père sur leur mère et indiquent même qu'elles ont été abusées sexuellement par leur père. Le 28 octobre 2014, Jacqueline Sauvage, âgée de 65 ans, est condamnée à 10 ans de prison ferme. Dès lors, des pétitions sont mises en ligne et une demande de grâce présidentielle est adressée à François Hollande. Elle est finalement graciée par le président de la République le 31 janvier 2016. Cependant, le 11 août, les magistrats du tribunal d'application des peines de Melun rejettent sa demande de libération conditionnelle. Jacqueline Sauvage était donc toujours incarcérée à la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Récemment, le 28 décembre 2016, François Hollande a accordé à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement qui met fin immédiatement à sa détention. L'affaire fait débat. La question pèse comme une accusation. Pourquoi n'est-elle pas partie ? Elle aurait dû partir, disons les bien-pensants. Revenons sur le passé de Jacqueline, fille d'une fratrie de 8 enfants,
Elle fait la connaissance de Norbert Marot dans son adolescence, vers l'âge de ses 15 ans. Couturière de formation, Jacqueline exerce son métier avant de fonder une famille. Jacqueline ne touche pas de salaire et est entièrement dépendante de son mari. D'après les trois filles du couple, leur mère a souffert tout au long de sa vie. Victime de l'emprise de leur père, homme violent, tyrannique, pervers et incestueux. De nombreuses femmes, victimes de violences conjugales, connaissent des similitudes avec l'affaire Jacqueline Sauvage. Isolement et dépendance financière. Mais où donc aller chercher de l'aide quand on est seul et victime de violences? Des moyens existent. Depuis 1972, l'État a créé le CITF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui apporte une information juridique et un accompagnement dans les démarches judiciaires à toute victime de violences. Pour faire face à des situations d'urgence, il existe aussi des lieux d'accueil et des centres d'hébergement partout en France. Mais malheureusement, dans certains secteurs géographiques, il est encore difficile de joindre ces associations, tout particulièrement dans le milieu rural. Il y a un isolement accru, une absence d'hébergement et d'associations spécialisées. Pour y avoir accès, il faut obligatoirement des moyens de transport. Or, la mobilité est une des difficultés pour ces femmes. Elles sont donc prises au piège. Et c'est sans compter sans la peur du commérage, dans un milieu avec peu de densité de population. Tout le monde se connaît, et la prise de parole pour ces femmes, et la prise de parole n'est pas facile pour ces femmes. La précarité financière est une autre des difficultés majeures pour ces femmes. Autant d'éléments qui freinent un éventuel départ du domicile. Les chiffres de nos associations montrent qu'il y a de la violence en milieu rural comme en milieu urbain. Le 3919 constitue le numéro national de référence d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de toutes sortes de violences et leur entourage. Dans l'ancien code pénal, les violences commises par le conjoint ou le concubin n'étaient pas spécifiquement reconnues. Heureusement, la loi du 22 juillet 1992 du code pénal mentionne que la qualité du conjoint de la victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction commise. Qualité élargie aux concubins, pacsés et anciens conjoints. Ces délits sont répréhensibles de peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Pourtant, alors que la vie quotidienne et professionnelle de ces femmes est altérée, que pour 16% d'entre elles, un médecin a délivré un certificat d'incapacité totale de travail, la plupart de ces violences ne sont pas suivies de plaintes. Et plus d'une femme sur cinq victime de violences conjugales ne s'est confiée à personne, pas même un proche. Comme il le fit en avril 1971, en faveur de l'avortement, le Nouvel Observateur publie le 26 août 2013 un manifeste pour que notre société ouvre enfin les yeux sur la vérité du viol en France. Un scandale massif qui appelle à une mobilisation urgente. Pour la première fois, 313 femmes, entre 18 et 87 ans, déclarent ensemble avoir été violées. N'est-ce pas une belle preuve de courage? Je rappelle, mesdames et messieurs, que depuis 1948, les droits universels de l'homme sont étendus aux femmes. Oui, depuis 1948, les droits universels de l'homme sont étendus aux femmes. Alors pour conclure, la fameuse question « Mais pourquoi n'êtes-vous pas partie ?» Pas si facile. Il ne suffit pas de prendre quelques affaires et de claquer la porte derrière soi. Il faudrait agir. Agir collectivement. Changer les représentations pour que la honte change de camp. Et que ne se pose plus la question comme une accusation. Pourquoi ne sont-elles pas parties?
Le 17 mai 2013 est votée en France la loi pour le mariage pour tous. Pourtant, l'homophobie est toujours présente. Gabriel va nous présenter sa plaidoirie contre cette discrimination. Homosexuel, oui et alors? C'est la question qu'elle nous pose ce soir.
Toutes les 5 secondes, un enfant meurt à cause de la faim. Ce qui révolte Emma, c'est qu'au contraire de ses enfants, il existe encore de nombreux pays où l'on jette et gaspille de la nourriture en grande quantité. Elle nous parlera de la petite Maria, qui à peine née doit déjà se battre pour survivre. Elle clôturera sa plaidoirie avec un très joli poème, qui est aussi le titre de sa plaidoirie. Ils sont si bien élevés.
Mesdames, messieurs, pensez-vous que votre alimentation est parfaite? Que vous mangez tout, sans exception? Que vous mangez jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim? Pensez-vous avoir une bonne alimentation? Si je posais cette question à tous les habitants de la Terre, 850 millions me répondraient que non. Principalement dans les pays de l'Afrique, comme le Kenya, la République dominicaine du Congo, ou bien en Asie, pays comme l'Inde ou l'Afghanistan. Le droit à l'alimentation a été reconnu en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Malgré tout, toutes les 5 secondes, un enfant meurt à cause de la faim. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas manger? La sécheresse, la guerre civile, un peu de tout ça. La sous-nutrition est une mort lente et douloureuse. C'est 850 millions de personnes qui souffrent d'insuffisance alimentaire, environ 1 personne sur 10. Mais quand peut-on dire qu'une personne est en insécurité alimentaire? La sécurité alimentaire repose sur 3 critères. La satisfaction des besoins quantitatifs, si l'on mange assez dans la journée, c'est-à-dire 2500 calories par jour pour 1 personne. La satisfaction des besoins qualitatifs, si l'on mange de la nourriture saine, comme des légumes, de la viande, etc. Et la satisfaction des besoins hédonistes, le fait de manger par plaisir et non par besoin. 850 millions de personnes n'ont pas rempli ces critères. Par exemple, en Afrique subsaharienne, en moyenne, une personne consomme moins de 2200 calories par jour. Nous sommes bien loin des 2500 calories. En Angleterre, une personne consomme plus de 3200 calories par jour. L'écart se creuse et un grand fossé sépare les Anglais des habitants de l'Afrique subsaharienne. Trouvez-vous ça normal que dans certains pays, on meurt de faim et que dans d'autres, on jette de la nourriture? Parlons maintenant de Maria, une petite fille de 9 mois qui vit avec sa mère Colette Razanamaro à Madagascar. À 9 mois, Maria Faratiana est trop petite par rapport aux enfants de son âge, déplore sa mère Colette. La fillette ne pèse que 6 kg pour 60 cm au lieu de 8 kg ou plus pour 70 cm. Explique sa mère dans un centre de nutrition d'Antananarivo. Les enfants reçoivent notamment du plumpisup, une sorte de pâte énergétique à base d'arachides et à haute teneur en protéines. Sa mère prend alors la décision d'aller voir un docteur pour sauver sa petite fille Maria. Il explique alors que si aucune mesure n'est prise avant les 2 ans de sa petite fille, les dégâts sur le développement de son cerveau seront irréversibles. À peine née, la petite fille doit déjà se battre pour survivre. Mais Maria n'est pas la seule enfant touchée par la malnutrition. Madagascar est le 4e pays avec la plus forte prévalence de malnutrition chronique qui se détecte en comparant la taille et l'âge de l'enfant, poursuit Siméo Nanama, le chef de la section nutrition de l'UNICEF à Madagascar. Environ 2 millions d'enfants malgaches sont affectés par cette forme de malnutrition qui se développe lentement en l'absence d'alimentation équilibrée, ajoute-t-il. Les conséquences à l'échelle du pays sont gigantesques. Faute d'avoir été pris en charge pendant les 2 premières années de leur vie, la moitié des enfants devant pas pouvoir bien étudier ou produire convenablement pour le pays. Au Kenya, non loin de cette magnifique ville de Nairobi, se trouve Dandora. Est-ce que ce nom vous évoque quelque chose ? C'est l'une des plus impressionnantes décharges sauvages d'Afrique, l'un des sites les plus pollués de la planète. Les déchets de la ville s'y entassent pêle-mêle depuis les années 70. Des sacs plastiques, de la nourriture pourrie, des déchets médicaux et plein d'autres choses. Ici, les hommes, les femmes et les enfants passent leur journée entière à creuser ces montagnes de déchets pour trouver quelque chose à vendre ou quelque chose à manger. Ramasser des centaines de sacs plastiques leur apporte que quelques dizaines de centimes d'euros par jour. Pour acheter quoi ? Quelque chose à manger ? Mais est-ce nécessaire pour une famille entière ? Est-ce normal pour ces personnes de fouiller dans les poubelles, dans nos poubelles, pour trouver quelque chose à manger ? Mais que peut-on faire pour les aider ? Des hommes se sont mobilisés contre la faim dans le monde et des associations sont créées, comme Action contre la faim. Cette association agit contre la faim dans le monde. 22 pays en Afrique sont aidés, 10 pays en Asie, qui comprend les deux tiers des personnes en sous-alimentation dans le monde, 6 pays au Moyen-Orient, 6 en Amérique du Sud, 1 dans les Caraïbes, qui est Haïti, et 1 en Europe, qui n'est autre que l'Ukraine. Ces 46 pays aidés par cette association, venant en aide à 14,9 millions de personnes. 14,9 millions de personnes. C'est comme si 8% des Français mouraient de faim et que 3,4% de la population était aidée par cette association. Je vais maintenant laisser parler une autre personne. Ces enfants-là, ils sont si bien élevés, les gosses qui meurent de faim. Ils ne parlent pas la bouche pleine, ils ne gâchent pas leur pain. Ils ne jouent pas avec l'ami pour en faire des boulettes. Ils ne font pas de petits tas au bord de leurs assiettes. Ils ne font pas de caprices, ne disent pas « j'aime pas ». Ne font pas la grimace quand on enlève un plat. Eux, ils ne trépignent pas pour avoir des bonbons. Ils ne donnent pas aux chiens le gras de leur jambon. Ne courent pas dans vos jambes, ne grimpent pas partout. Ils ont le cœur si lourd qu'ils vivent à genoux. Pour leur repas, ils attendent sagement. Ils pleurent quelquefois. Quand cela dure trop longtemps. Non, non, rassurez-vous, ils ne vont pas crier. Ces petits-enfants-là, ils sont trop bien élevés. Ils sont si petits qu'on ne les voit même pas. Ils savent qu'ils ne peuvent rien attendre de leur mère. Ils cherchent stoïquement du riz dans la poussière. Mais ils ferment les yeux quand l'estomac se tord, quand la douleur atroce irradie tout leur corps. Non, non. Soyez tranquilles, ils ne vont pas crier. Ils n'en ont plus la force. Seuls leurs yeux peuvent parler. Ils vont croiser leurs bras sous leur ventre gonflé. Ils vont prendre la pose pour un bon cliché. Ils mourront doucement, sans bruit, sans déranger. Ces petits-enfants-là, ils sont si bien élevés.
Le mot de la fin à Bruno Ginisti, président de la MGN Aveyron. La MGN est en effet partenaire depuis de nombreuses années du concours des plaidoiries des lycéens pour les droits de l'homme du mémorial de Caen. La MGN de l'Aveyron s'est associée depuis quelques années à l'initiative qui est menée sur Villefranche de Rouergue. Elle offre un prix à chacune des participantes de cette soirée au théâtre de Villefranche.
Je crois qu'on peut être fier ce soir de voir la qualité de chacune de ces interventions. C'est émouvant, c'est fort, ça a du sens. Et je crois que ça nous apporte beaucoup. On peut être fier de notre jeunesse. La MGN promeut depuis plusieurs années la citoyenneté et la laïcité. Je crois qu'avec les événements que nous avons vécus les années dernières, je crois qu'il est important de mettre en avant le vivre ensemble. Nous avons eu aujourd'hui devant le public, c'est très compliqué pour des élèves, pour des jeunes, de s'exprimer devant vous. Elles ont 15 ans, 16 ans. elles sont en seconde. Elles arrivent au lycée et bravo vraiment pour cette qualité. Il faut trouver les mots de vocabulaire. Il faut faire ressentir au public de l'émotion, de la force, de la colère parfois. Il faut connaître la législation et le droit et le citer. Il faut maîtriser l'art de l'éloquence et de la rhétorique. C'est une victoire pour elle ici ce soir. C'est une victoire pour défendre des causes justes. On vient ce soir d'avoir de belles leçons de citoyenneté. Je vous dis merci.
C'était Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme sur CFM Radio. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Excellente journée à tous et rendez-vous le mois prochain pour une émission avec des élèves de lycée Raymond Savignac qui ont travaillé sur le thème de l'homophobie. Donc, prochaine émission sur le thème de l'homophobie. Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, les libertés et la solidarité. Refusons le racisme et l'exclusion, et c'est ce que font très bien les élèves, les lycéennes du lycée Raymond Savignac que vous venez d'écouter.
Vive la solidarité entre le peuple. Vive la solidarité entre le peuple. Ivoirien, Burkinabé, Mauritanien, Sénégalais, Guinée.